Radio Cité.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Cité, la radio du gymnase de la Cité. C'est la 1M4 qui vous parle, je m'appelle Anne et c'est le dernier temps du projet Bisclavret. Bisclavret, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'un chevalier qui se transforme en loup-garou. C'est le titre d'une histoire écrite au Moyen-Âge et c'est aussi le titre d'un court-métrage d'animation inspiré de cette histoire et qui est sorti en 2011. Dans la première émission, on a découvert un chevalier loup-garou trahi par sa femme et sa terrible vengeance. Et on a entendu comment on parlait français il y a 850 ans. Dans la deuxième émission, on a fait la connaissance de Marie de France et Émilie Mercier. Dans la troisième émission, on s'est intéressé aux images et à la musique du film. La dernière fois, on a compris que le loup-garou de Bisclavret n'était pas un monstre, même s'il symbolise des pulsions profondes comme les pulsions sexuelles. Aujourd'hui, dernier temps, on va se demander quel est le sens de cette histoire avec deux interprétations très différentes. Est-ce qu'on nous raconte une histoire d'homme, celle d'un roi et de son chevalier, ou bien est-ce qu'on nous raconte une histoire de femme qui se bat pour sa liberté? Allez, on se remet encore une fois dans l'ambiance. Alors maintenant, nous allons écouter une chronique sur le roi et son chevalier. Elle sera présentée par Louis et Romain. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour. Oui, alors on va traiter des rapports entre le roi et son chevalier dans Bisclavret, car on pense que c'est un des aspects majeurs du récit.
Exactement. On va surtout parler de la loyauté entre le chevalier et son roi. C'est fondamental au Moyen-Âge.
Eh bien, ça a l'air très intéressant. À vous messieurs.
Oui, donc on veut mettre en avant ce qui nous semble être le plus important pour comprendre cette histoire. Dans la première émission, on a vu que Bisclavret, au premier abord, est une histoire d'amour et de vengeance. À notre avis, le sens profond de l'histoire n'est pas là.
Exact. Nous, on pense que les liens qui unissent les deux hommes, le chevalier et le roi, sont essentiels. Ils sont, à notre avis, le cœur du récit. Plus important même que les liens entre le chevalier et sa femme.
Mais pour comprendre ça, il faut d'abord parler des liens vassaliques dans la société féodale.
Pour ceux qui ne le savent pas, les liens vassaliques désignent, dans la société du Moyen-Âge, le rapport très particulier qui existe entre le roi et son chevalier. Et le lait du Bisclavret contient beaucoup d'éléments intéressants à ce propos.
Pour commencer, parlons de la cérémonie qui est organisée afin de lier le roi et son vassal. C'est ce qu'on appelle un hommage féodal ou vassalique. Dans le film, une scène en particulier nous rappelle cette cérémonie. C'est le moment où le roi se retrouve dans la forêt face au loup-garou. On peut observer la bête qui se prosterne au pied du roi. On écoute tout de suite cet extrait.
Mais voyant le roi près de lui, il court implorer sa merci.
Seigneur, vite, accourez, et ce prodige regardez, cette bête qui s'humilie et comme un homme prie merci. Faites écarter tous les chiens, et vous, ne la blessez en rien. Elle a raison et jugement. Dépêchez-vous, allons-nous-en. Cette bête est ma protégée. Pour lors, je ne veux plus chasser.
On l'a entendu, le roi est très touché par le geste du loup. Mais revenons au lien vassalique. Durant la cérémonie, le vassal jure fidélité à son suzerain, qui est donc le roi. En échange, le suzerain protège son vassal et lui donne une partie de son territoire que le vassal doit gérer. Cela crée une relation très forte entre le chevalier et son roi.
Dans le film, les liens entre le roi et le chevalier s'expliquent beaucoup mieux si on pense à ce serment. Quand le chevalier disparaît, le roi fait tout pour le retrouver et le protéger, comme le veut le serment.
Il va même par la suite jusqu'à torturer la femme du chevalier pour découvrir la vérité en faisant pleinement confiance à la bête. Il donne pratiquement plus d'importance au lien qu'il sent avec le Bisclavret qu'à la parole de la femme.
Oui, et c'est cet aspect qui est mis en valeur dans tout le récit. Un respect mutuel et même une amitié plus forte que tout entre le maître et le serviteur. Nous vous laissons sur une chanson de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, reprise version Moyen-Âge par Starry Olza. Merci, à bientôt.
Alors maintenant, nous allons accueillir Philippe et Isaac. Bienvenue dans cette émission.
Merci, bonjour à tous. Isaac et moi, on va vous proposer une autre interprétation de Bisclavret que celle qu'on vient d'entendre.
Bonjour tout le monde. Oui, on est d'accord avec Louis et Romain sur le fait que Bisclavret n'est pas d'abord une histoire de vengeance. Mais pour nous, ça veut dire surtout que la femme du chevalier n'est pas la traîtresse et la manipulatrice qu'on imagine à la première lecture. Et ce point de vue, en fait, est soutenu par Émilie Mercier dans son film.
Très bien. Alors, place à votre analyse.
Merci, c'est parti. Donc, pour commencer, dans la scène du lait où le chevalier Bisclavret annonce à sa femme qu'il est un loup-garou, celle-ci réagit en ayant très peur. Alors, elle cherche à se débarrasser de cet homme en utilisant un autre chevalier, un de ses prétendants. Quand on regarde le film d'Émilie Mercier, on comprend, oui, que la femme trahit son mari, mais d'une manière, à mon avis, plus défendable. Qu'est-ce que tu en penses, Isaac ?
Je suis du même avis que toi. Comme l'écrit Émilie Mercier, la femme de Bisclavret n'est pas juste une épouse qui trahit son mari avec un autre homme. C'est une femme qui décide de quitter son mari par frustration et parce qu'elle souffre de ses absences répétées.
En fait, la femme éprouve une certaine compassion pour son mari et le fait qu'il soit absent sans raison éveille en elle des soupçons. Elle pense que son mari la trompe.
Tout à fait. Et on peut imaginer que ça la pousse à faire de même de son côté.
En tout cas, à la fin de l'histoire, la vengeance de Bisclavret est terrible, puisqu'on se souvient qu'il arrache le nez de sa femme avant que le roi découvre la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Mais à la fin du court-métrage, d'Émilie Mercier se termine différemment du texte de Marie de France. On écoute un extrait.
La femme, elle, fut exilée, chassée bien loin de la contrée. Et avec elle aussi partit celui qui trahit son mari. Ils eurent bon nombre d'enfants, qui se connaissaient aisément à leur air et à leur visage. Maintes femmes de leur lignage, à la naissance, étaient sans nez et devaient vivre des nésés.
Alors oui, la fin du film est très différente de celle du texte. Dans le texte, Marie de France raconte aussi que la femme est exilée et que tous ses enfants, que toutes ses filles vont naître sans nez, comme en souvenir de sa trahison. Mais ça s'arrête là. Dans son film, Émilie Mercier a choisi une fin plutôt heureuse pour la femme. Sur les images, on voit qu'elle est partie, mais aussi qu'elle vit dans un autre château. Elle est avec son nouveau mari et ses filles, même si, comme leur mère, elles n'ont pas de nez. Elles ont quand même l'air de bien s'amuser.
En fait, la femme a refait sa vie. Donc en vérité, pour Émilie Mercier, Marie de France a voulu montrer que la femme n'est pas fautive dans cette histoire. C'est même une histoire qui permet de dénoncer le manque de droits et de confiance accordés aux femmes.
Allez, on se quitte avec Gradure qui chante Rossa, une femme trempée qui décide elle aussi de quitter le navire et de reprendre sa liberté.
Mamacita de la Rosa, une jolie beauté comme Rosa Acosta, verre de rosé, un pas de côté. D'un coup mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chevrée, c'est de la peu près. C'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma chantier, moi je suis ton jaoul. J'ai fait des fois dans ma vie, mais oublie mon parcours. Je serai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, mais s'aimer. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Tellement de soucis dans la tête, laisse-moi m'en jaillir. Dans un océan de billets, je rêvais de me noyer. Rosa dans ma tête, je l'ai côtoyée. Depuis qu'elle est partie, je l'ai pas oubliée. Elle a bousillé ma tête et mon esprit. Mon cœur s'est ouvert à cette mélodie. J'suis condamné à rapper ma vie, mon vécu. Car niveau sentiment, j'suis maudit. Oui, j'suis un artiste, qu'est-ce que tu croyais? On peut pousser la mêlée, on fait pas qu'aboyer. J't'avoue, j'ai volé pour payer mon loyer. Mais
j'ai de la culture, j'ai ouvert mon cahier. Un cœur de pierre fait en béton armé. Trop de femmes m'ont déçu, poteau, j'peux plus aimer. Me suis juré d'avancer, réussir mes projets, pas louper le coche. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait.
Voilà, cette cinquième émission est terminée. Un grand merci à nos chroniqueurs Louis, Romain, Philippe et Isaac. Et merci aussi au livre de Jean-Pierre Bordier sur les laits de Marie de France, au site clairobscur.info, synergie.be, histoirefrance.net, étudier.com, wikidia.org et évidemment à Wikipédia. Sans oublier le livret du DVD Bisclavret d'Émilie Mercier, avec la traduction moderne de Françoise Morvan, publiée en 2012 par les Films du Nord. Merci et à très bientôt.
Radio Cité.